avoir envie d'interroger le monde.
Il y a une chose, une seule à préconiser, qui est la recherche sur le terrain.
La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses.
Bienvenue dans cette deuxième partie de matinale. Vous êtes sur Radio FM Plus et vous écoutez l'émission Doctoradio. Alors, on vous souhaite la bienvenue avec dans cette émission où des thésards donc de tous les horizons viennent jusqu'à vous pour vous raconter leurs recherches, leurs trouvailles, leurs découvertes qui bouleverseront peut-être un jour notre société. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale puisqu'on n'a pas vraiment d'invité. C'est entre nous, entre Camille et moi, n'est-ce pas Camille ?
Oui, tout à fait. Alors si on a choisi le sujet de l'histoire des médias aujourd'hui, c'est donc non seulement parce qu'on n'avait pas d'invité, mais aussi parce que toi, Alinor...
Faut pas dire ça.
C'est une blague, évidemment.
Oui, une blague.
Parce que toi, Alinor, donc, tu es spécialiste de ce domaine, donc de l'histoire des médias. Est-ce que tu pourrais, des médias, plutôt des liens entre la littérature et les médias, est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement quelle est tes recherches, ton sujet de thèse ?
Mais bien sûr, Camille. J'aime bien qu'on soit toutes les deux pour une fois. C'est une première.
Oui, c'est la première.
Bah, alors effectivement, moi je travaille donc au laboratoire du RIRA 21 à Montpellier, et où je travaille donc sur les liens entre littérature et presse, à la Belle Époque plus précisément. Et si on précise encore, moi je travaille donc sur un petit journal, un phénomène éditorial de la fin du 19e siècle, qui a duré une quarantaine d'années. Ce sont les suppléments hebdomadaires des grands quotidiens littéraires de la Belle Époque. Donc ces grands quotidiens littéraires, c'est le Figaro, le Gil Blas... L'Écho de Paris, Le Gaulois, etc. Tous ces journaux-là se détachent de la littérature qui était vraiment une matrice rédactionnelle tout au long du 19e siècle. Ils s'en détachent, ils se professionnalisent un peu, façon BFM TV. et du coup, la littérature, ils ont quand même cette tradition de la littérature et ils vont la déplacer dans des suppléments hebdomadaires qui vont concentrer tout un contenu culturel. Donc ils sont assez exceptionnels, ces petits formats, parce que c'est une fois par semaine, souvent fin de semaine. C'est entre 6 et 8 pages, et on a des magnifiques illustrations, souvent réalisées par l'avant-garde, par Steinlein, par Balureau. On va avoir des poèmes, on va avoir des partitions de musique, qui sont en fait les musiques du Chat Noir, du cabaret du Chat Noir, reprises, des fois des inédits. Il faudrait faire une émission là-dessus. Il y a des poèmes, voilà, des chansons, des romans feuilletons, etc.
Oui, donc ça montre le bouillonnement artistique de cette période-là.
Absolument. Et ce petit format, il est très étrange parce qu'à la fois, il est relié à l'actualité. Puisque c'est un produit dérivé du quotidien, en fait. Ouais. On pourrait se dire, du coup, il n'y a pas une grande importance culturelle. Mais, en même temps, il va y avoir l'avant-garde qui va travailler là-dedans, il va y avoir l'avant-garde qui va créer des projets. C'est très particulier. Il y a plein de choses à faire. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, on a voulu faire un petit format où on vous racontait un petit peu des anecdotes sur l'histoire des médias. Donc, c'est des chroniques que certaines j'ai pu réaliser au sein de cette radio il y a maintenant un petit bout de temps. Mais on s'est dit qu'on allait faire un petit best-of, une petite compilation. Donc, j'ai donné à Camille mes meilleures chroniques.
Et oui, c'est toi qui as supervisé l'émission. Et c'est moi qui m'aventure sur ton terrain. Échange de bons procédés, puisque le 13 juin, on aura droit à une émission spéciale poésie contemporaine, c'est-à-dire mon domaine d'expertise.
Absolument, j'ai bien hâte aussi. On essaiera peut-être de faire venir un poète, une poétesse. On dit une poétesse aujourd'hui ?
On peut dire une poétesse, il y en a qui préfèrent dire une poète, voilà.
Je trouve que c'est plus joli, poétesse, mais bon, c'est une affaire de goût. Très bien. Bah oui, effectivement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'histoire des médias ? Alors, on disait tout à l'heure avec un autre chroniqueur que c'est un petit peu l'ancêtre de Twitter, enfin X, comme on dit maintenant aujourd'hui. Et que finalement, tout ce qu'on connaît aujourd'hui du régime actuel, de l'information, de l'actualité en continu, de la façon de traiter du monde qui nous entoure, tout ça, ça trouve ses racines dans cette époque-là, en fait. C'est tout l'intérêt. Et notamment, on va commencer, je pense, avec l'histoire du Figaro. Parce que, par exemple, vous connaissez tous le Figaro. Dans la régie, là, vous connaissez tous, évidemment, le Figaro. Qui ne connaît pas le Figaro ? Mais en fait, ce journal-là a une histoire plutôt surprenante. Parce que moi, quand je dis aux gens que je suis fan du Figaro, bon, ça colle pas trop avec le personnage, on va dire. Mais C'est un journal qui en fait, il s'agit du plus vieux journal de la presse française, européenne aussi, et peut-être même du monde, en fait, avec son nom donc qui fait référence à une œuvre littéraire dont le personnage est aussi frondeur que le journal lui-même.
Oui.
Vous avez deviné, il s'agit bien donc du journal du Figaro. Et donc ce journal, il naît en 1826, pendant la Seconde Restauration, la même année que la naissance du peintre Gustave Moreau. Voilà.
Petite précision.
Et si vous faites le calcul, il a donc près de 200 ans, le Figaro, pas Gustave, évidemment. Avec son histoire donc, qui a traversé 10 régimes politiques différents, tout de même, et qui continue encore aujourd'hui de participer à la vie politique. 10 régimes, c'est plus que la reine d'Angleterre. Et donc, quel rôle ce journal a-t-il joué dans la société française ? Plein de choses, en fait. On peut reprendre par le début, puisque donc en 1826, on a Charles X, qui vient de succéder 2 ans plus tôt à Louis XVIII. Malgré la Révolution française, un petit peu de contexte, évidemment, les rois tentent de revenir au pouvoir, depuis 1814, après la chute de l'Empire de Napoléon. Mais les Français n'ont pas oublié pourquoi ils avaient coupé la tête des rois. Et les journaux, en dépit de la censure, trouvent des moyens de critiquer la monarchie. C'est d'ailleurs cela qui est intéressant avec la censure. Bah, d'ailleurs, ce sera le sujet de ta chronique juste après.
Parfait.
Les auteurs font toujours preuve de plus d'inventivité pour faire passer leur message. Et c'est ce chemin que va suivre le jeune Figaro, petit journal littéraire et léger qui s'oppose à la grande presse d'opinion, bien plus sérieuse, bien plus officielle, bien plus dense et illisible aussi. Et sa devise affichée en première page, c'est « La vérité quand même ». Ça, c'est une provocation envers les ultra-royalistes, hein, dont la devise, c'est « Vive le roi quand même ». Et donc, en écho à l'œuvre Figaro, les rédacteurs, dont faisait partie notamment Georges Sand, se cachent sous les noms des personnages de Beaumarchais, donc de l'œuvre, et vont maquiller leur critique du gouvernement par le rire. En d'autres termes, le journal semble publier des satires théâtrales, se cache sous l'humour, quand son réel but est de contribuer à renverser le régime. Ça. Et donc il republie par exemple la fameuse caricature du roi en poire, dont Hippolyte Castille dira en 1830 « D'un trait de plume, le règne était jugé ».
Oui, on en parlera aussi, j'en parlerai après.
Né en 1832, le journal est racheté par les royalistes, et il perd alors tout ce qui faisait son sel, son statut d'opposant au pouvoir. Il disparaît presque à cette époque, essuyant 9 échecs après des tentatives de relance. Émile Gaboriau dira qu'il brille dans l'opposition, mais qu'il passe au pouvoir, il s'éteint et meurt. On pensait le Figaro perdu, mais voilà qu'en 1854, plus de 20 ans plus tard...
Retournement de situation.
Plot twist. Il est repris par Villemessant, un brillant directeur de presse qui ne cesse d'innover et qui, à défaut d'un caractère subversif, considère que le journal doit acquérir de la respectabilité pour maintenir son règne. Il engage des rédacteurs talentueux comme les frères Goncourt ou Charles Baudelaire. Il crée le courrier des lecteurs, il relate la vie parisienne et ses petits potins. Et c'est la renaissance du journal à ce moment-là. Sous l'Empire, il devient la référence ultime en termes de culture et de vie mondaine. Malgré son ton léger, les rédacteurs sont d'excellents écrivains qui font fait leurs humanités, hein, comme on dit à l'époque. Et le journal décide de la carrière d'un artiste en un claquement de doigts. Claire Blandin, la grande chercheuse spécialiste du Figaro, le définit comme le magistère culturel de l'époque. En d'autres termes, si vous avez étudié certains auteurs du 19e siècle pour le bac, c'est peut-être bien parce que le Figaro avait décidé qu'ils étaient dignes de rentrer dans la postérité.
Ah oui.
Pour autant, même si le journal est devenu respectable, il n'a pas perdu ses convictions des premiers jours. C'est pour ça que je suis fan, hein, le Figaro. Vous ne savez pas, pour moi, la chute que c'est terrible. Enfin bon, bref. Et il exige une liberté de pensée. Par exemple, pendant l'affaire Dreyfus, le mouvement Dreyfusard naît en réalité au sein de la rédaction du Figaro. Ça, c'est très peu connu. Nous, on connaît Aurore, J'accuse, etc.
Ouais.
Et c'est d'autant plus étonnant que le journal est désormais de droite, hein, enfin la droite de l'époque, et que tous les journaux de droite de l'époque ne croient pas à l'innocence de Dreyfus. Et avant même donc, l'apparition de J'accuse dans l'Aurore, 3 articles sont publiés par Zola dans le Figaro. Et c'est dans le Figaro aussi qu'est publiée la fameuse caricature par Carandache. Vous savez, celle du dîner où les convives se battent en parlant de l'affaire Dreyfus. Et ne nous battons pas, et puis dans la case d'en dessous, tout le monde se bat en parlant de l'affaire Dreyfus. Et donc, en même temps, voilà, avoir des idées, ça a un prix. Et le journal va perdre les 2/3 de ses abonnés pour avoir défendu Dreyfus. Et malgré cela, ils vont le défendre jusqu'au bout. Ils lâchent pas l'affaire.
Ouais.
Et c'est ça qui est admirable, hein, dans l'histoire de ce journal, c'est que les convictions des rédacteurs ont résisté à la pression, qu'elles viennent des différents gouvernements ou de son propre public. Il y a quelque chose de profondément illogique dans cette démarche, puisque ça va à l'encontre de la culture marchande de la presse, qui est supposée séduire le lectorat. Et pourtant, le journal refait le coup pendant la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que de collaborer, le directeur Pierre Brisson ferme le journal et le justifie ainsi. Les consignes impératives, je cite, qui viennent de nous parvenir ne nous permettent plus de poursuivre notre tâche sans offenser nos sentiments les plus intimes et sans trahir la confiance du public. Il s'agit de mentir ou de se retirer. Notre choix est fait. Je remercie les lecteurs de leur attachement, de leur compréhension, de l'estime qu'ils marquent à ce journal fait par des hommes de cœur dans des situations difficiles. Je leur donne l'assurance qu'ils retrouveront au premier jour le Figaro, fidèle à ses devoirs et conforme à ses vœux. À la Libération, ça ne manque pas. Le Figaro est une fois de plus le seul journal de droite à pouvoir reparaître. Il était le dernier à ne pas avoir diffusé l'idéologie fasciste à son lecteur. On pourrait continuer très longtemps sur l'histoire de ce journal, qu'il s'agisse de ses positions sur la colonisation, son rôle dans Mai 68 et même ses concours de châteaux de plage. Iconique. Depuis son rachat par le groupe Dassault en 2004, certaines positions sont certes discutables, mais il faut reconnaître la formidable aventure que constitue ce journal. Car un journal, c'est une aventure, la rédaction en collectif, les changements de ligne éditoriale, les choix de publication qui font parfois scandale dans la société. Tous ces événements sont en réalité palpitants, c'est tout un récit, un roman. Fermez les yeux, imaginez-vous à la veille de la publication de J'accuse dans la salle de rédaction, imaginez les débats, les cris, la peur et l'excitation de pouvoir changer le monde avec vos paroles. Un journal, ce n'est pas seulement de l'information, un journal, c'est aussi cela.
Wow, merci beaucoup Aliénor, tu nous as plongé dans cet univers bouillonnant du Figaro. Et donc le Figaro, oui, a bravé les interdits et la censure, et c'est sur ce thème-là que je vais enchaîner avec la deuxième petite chronique sur l'expression artistique sous la censure au XIXe siècle. Alors pour commencer cette chronique, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un morceau de musique classique. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Vous écouteriez ça sous la douche ?
Carrément.
Moi, pas forcément. En fait, ce morceau, appelé la symphonie numéro 8, c'est une note de suicide, laissée par le compositeur Dimitri Shostakovich en 1943, qui tente de lutter contre le totalitarisme stalinien.
On sait mettre l'ambiance en studio. Hein.
Oui. Alors, certaines notes, très stridentes, évoquent l'angoisse du compositeur face à la déportation et au meurtre de ses proches. Il ne se suicidera finalement pas et produira même une symphonie numéro 9, beaucoup plus lumineuse des années après.
Tout va bien.
Mais alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que cette symphonie est produite pendant un moment de censure par le régime et que la résistance de l'artiste dans ce contexte se fait par des moyens ingénieux, où la critique doit être subtile et ne pas éveiller l'intérêt du gouvernement. S'exprimer sous la censure, les auteurs et artistes des 19e et 20e siècles ont exprimé dans la presse, et cela demande aussi bien du courage qu'une intelligence inouïe pour éviter les interdits. Alors aujourd'hui, on ne parlera que du 19e siècle, et il y a déjà beaucoup à dire.
Oui.
Tu connais bien ça, toi qui travailles dessus. Effectivement, au 19e siècle, la censure est levée, puis appliquée de nouveau en fonction des différents régimes politiques. Et rappelez-vous de vos cours de lycée, le 19e est un siècle où les gouvernements changent constamment. Mmh. En fait, il y avait eu quelques années de liberté après la Révolution française, où le droit à la liberté de la presse avait été promulgué comme loi fondamentale de la République. Mais la terreur avait très vite fait oublier le vent de liberté qui avait soufflé sur la presse, la chanson et le pamphlet. En 1810, Napoléon Ier porte un coup fatal à l'expression libre avec un décret d'encadrement administratif, je cite.
Quelle horreur.
Avant d'être publié, la police allait mener une enquête rigoureuse sur le candidat et le maire de la ville devait délivrer un certificat de bonne vie et mœurs. Autant dire que des auteurs critiques du régime napoléonien, comme Proudhon, Victor Hugo ou Édouard Quinet, publient à Bruxelles leurs œuvres et parfois même s'exilent à l'étranger pour conserver leur liberté d'expression. Pierre Larousse, l'inventeur du dictionnaire éponyme, invente même un stratagème ingénieux pour faire passer sa critique du régime impérial. Il rédige un article favorable en apparence du général Bonaparte, amadouant ainsi les censeurs, puis détruit Napoléon Ier et son neveu dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle dans un petit article dissimulé à la lettre N. Quand, en 1814 puis 1830, les rois reprennent le pouvoir, ils récupèrent ce décret napoléonien tel quel. C'est encore plus vicieux d'ailleurs. Quand le duc d'Orléans monte sur le trône en 1830, il la joue populaire, se fait sacrer roi des Français plutôt que roi de France, arbore le drapeau aux trois couleurs plutôt que la fleur de lys, et déclare solennellement que la censure est abolie à son arrivée aux Tuileries. Un petit peu hypocrite, hein,
un jeu de masque.
Le duc d'Orléans. Mais il la rétablit, cette loi, 5 ans plus tard, avec des lois interdisant de prononcer le mot de république ou de caricaturer le roi. Il est vrai que la ressemblance de son visage avec une poire, comme tu l'as dit dans ta chronique précédente, avait permis à des dessinateurs malicieux de se moquer de lui. Bon, pour autant, les artistes continuent de prendre des libertés et utilisent beaucoup le sous-entendu et la satire. Au théâtre, tout le monde applaudit la pièce de Félix Pia en 1832, quand il fait dire par un des personnages de son Diogène à propos du tyran « Il est gros, gras et bête », parce que tous les spectateurs reconnaissent immédiatement Louis-Philippe. Oui, un peu dur. Mais quand en 1848, un nouveau Napoléon revient et que les mouvements populaires de la même année sont violemment réprimés, on serre à nouveau la vis et la censure. Cette fois, on ne parle même plus de politique, mais de morale, de bonnes mœurs. Et les lettres et les arts n'ont pas intérêt à débaucher le peuple. Sous ce gouvernement, on voit des procès encore célèbres aujourd'hui. Le peintre Manet choque avec la nudité de ses sujets, des prostituées en plus, dans la toile Déjeuner sur l'herbe.
Oh.
Ouais. Courbet voit son œuvre, l'atelier du peintre, refusée à l'exposition universelle et qualifiée de vulgaire. On connaît aussi en 1857 les deux procès retentissants contre Baudelaire avec les fleurs du mal et contre Flaubert pour Madame Bovary.
Oui, c'est vrai.
Eh oui. Pour Baudelaire...
C'est la scène de la calèche.
Exactement.
Comme dans Bridgerton.
Oui, alors pour Flaubert, c'est un peu plus saugrenu. C'est donc une scène où Emma Bovary reste plusieurs heures dans une calèche avec son amant, suggérant ainsi qu'ils y sont restés pour faire un Monopoly. Il faut suivre. Et c'est ce qui va provoquer la censure de l'œuvre. Et pour Baudelaire...
Comme dans Bridgerton.
Oui, exactement. Si vous avez vu le 4e épisode, apparemment, c'est ce qui s'y passe. Alors pour Baudelaire, le problème est qu'il critique le dogme religieux et fait l'éloge de la beauté dans le mal.
Mmh.
Voilà. Donc l'ordre social ne doit pas être bravé. En fait, ce qui fait peur au gouvernement, ce n'est pas que des lettrés, des bourgeois lisent des ouvrages un peu satiriques ou coquins et s'en amusent. Les hautes classes de la société ont toujours aimé les textes un peu scandaleux et grivois. La circulation des récits pornographiques du marquis de Sade dans les salons de la noblesse sous Louis XVI était bien tolérée par la monarchie, alors que le contenu était atroce.
Mmh.
Eh oui, non, la censure au XIXe siècle vise à laisser dans l'ignorance les couches les moins éduquées de la société et les catégories sociologiques les plus vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les ouvriers. Quand, en 1848, sortait le roman à quatre sous, les notables avaient vu avec inquiétude monter ce qu'ils appellent la fureur de lire, qui, au XVIIIe siècle, n'avait touché que la bourgeoisie citadine, friande des livres de Rousseau et Goethe. Quand au contraire, les romans de George Sand, de Hugo, de Balzac prolifèrent, romans qui parlent du peuple, pour le peuple, et font de ces individus des héros, le pouvoir s'inquiète du danger du savoir et du libre arbitre. On comprend en fait le rôle fondamental de l'art sous la censure, non pas de s'exprimer soi, en tant qu'artiste, mais de donner des clés de compréhension du monde aux autres, afin qu'ils puissent s'exprimer à leur tour.
Oh, c'est vrai que c'est bien.
Eh oui, c'est de pouvoir s'exprimer, effectivement. Comment on le fait ?
Bah oui, Bridgerton ne pourrait pas exister en fait, hein, si on ne s'était pas battu pour la censure, et ça quand même, je veux dire, hein ? On se sait.
Tout à fait.
On se comprend. Bah, on espère que ça vous plaît, cette petite ambiance plongée dans l'époque 19e-iste. Et on va continuer là-dessus, puisqu'on va vous mettre une petite pause musicale, hein, dans l'absolu, avec évidemment, bien évidemment,
la bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
de retour sur Radio FM+, dans l'émission Doctoradio. Et pour cette deuxième partie, donc, on est toujours sur notre émission spéciale Histoire des médias. Et pour cette deuxième partie, on s'est dit qu'on allait plutôt se plonger dans le sensationnalisme, dans le scandale,
ouais.
Avec les questions de la peine de mort et des faits divers. On va bien s'amuser.
Exactement.
Et alors effectivement, pourquoi est-ce que j'avais commencé à faire ces chroniques sur l'histoire des médias? C'est parce que il y avait donc ce premier fait divers de l'histoire française qui a complètement influencé le développement des médias. Et c'est avec ce fait divers donc qui s'appelle l'affaire Troppmann et qu'on appelle aussi le massacre de Pantin.
Oula. Suspense.
Bah en fait, c'est très intéressant le traitement de ce fait divers, qui en soit une histoire un peu tristoune, hein, mais c'est son traitement comme un véritable feuilleton médiatique. On est sur un vrai roman médiatique qui va tenir en haleine la France entière pendant plusieurs mois, entre 1869 et 1870. Et c'est ça qui est intéressant, fondamentalement. Xavier Marmier va écrire dans le journal, c'est un titre de journal, c'est un peu méta, que jamais crime n'a produit une impression pareille. Tous les journaux ne sont plus occupés qu'à chercher et à relater les détails de cet horrible égorgement. Et tout le monde achète matin et soir avec avidité ces journaux. La politique extérieure et intérieure est oubliée. La maladie de l'empereur, la désertion du père Hyacinthe, on s'en moque. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire Troppmann? Il nous faut un petit peu de fait, évidemment.
Oui, dis-nous en plus.
Sensationnalisme. Tout commence lorsque le 21 septembre 1869, un paysan de Pantin découvre un monticule de terre fraîche dans un champ. Il y découvre, horrifié, les cadavres d'une femme et de 5 enfants. Cette femme, c'est Hortense Quinck. Ses enfants ont entre 2 et 13 ans et tous ont été massacrés à coups de couteau, de pelle, de pioche. Son époux, Jean Quinck, est introuvable comme le fils aîné. Ils ont d'abord été soupçonnés, mais 2 jours plus tard, un jeune homme qui détient les papiers de Jean Quinck est retrouvé au Havre alors qu'il tente de s'embarquer pour l'Amérique. L'interpellé s'appelle Jean-Baptiste Tropman. C'est lui l'assassin de la famille Quinck, comme le prouvera la découverte des corps du père et du fils dans les semaines qui suivent. Tropman est mécanicien, il a 22 ans et il travaille pour la famille Quinck qu'il a voulu escroquer et qu'il a fini par tuer pour cacher les preuves. Dès le mois d'octobre, l'affaire attise la curiosité de plus en plus de lecteurs. C'est avec cette affaire que le petit journal, grand journal populaire du 19e siècle, fait sa fortune. Il triple régulièrement ses tirages pour satisfaire la demande croissante de détails sur l'enquête et surtout sur le crime. Des photographies atroces des cadavres sont publiées dans la presse. Surtout, il faut admettre que l'histoire est peu banale. Et les journalistes communiquent à leurs lecteurs avec plus ou moins de fantaisie les différentes étapes de l'enquête. La personnalité de Tropman fascine. Très taciturne, il multiplie les déclarations contradictoires, se rétracte, invente des complices. La structure même de ses péripéties permet au lecteur de se retrouver dans le monde familier du roman feuilleton. Le journaliste Émile Blondet souligne d'ailleurs avec humour dans le journal L'Éclipse du 3 octobre 1869 que la réalité dépasse la fiction et que les romanciers d'époque peuvent aller se rhabiller. Oh Gaborio, oh Bouvier, oh Féval, mon camarade, mon ami, mon maître. Vous qui avez gagné beaucoup d'argent et un peu de popularité à fabriquer sous cette enseigne à l'ombre du vrai, avouez mes enfants que vous n'êtes pas de force et que Tropman fait bien mieux que vous. C'est pourquoi le procès de Tropman en 1869 est magistral. Il attire le tout Paris et surtout beaucoup d'artistes. Alexandre Dumas, Arthur Rimbaud, Arsène Houssaye sont notamment présents et commentent le procès dans la presse. Lautréamont, auteur de poésie sataniste, fera même l'éloge de Tropman dans son œuvre. L'avocat qui le défend plaide la folie, mais ça ne suffit pas. Le jeune homme est condamné à mort.
Les jours qui précèdent.
Ouais, scandaleux, je vous avais dit. Je n'ai pas menti. Les jours qui précèdent l'exécution sont très commentés. Ivan Turgenev, célèbre auteur russe, publiera un livre intitulé « L'exécution de Tropman », dans lequel il raconte son dégoût pour les préparatifs de la guillotine, qu'il juge barbare, et note le sang-froid du jeune assassin. Tropman est guillotiné le 19 janvier 1870 devant une foule immense. La légende raconte que devant la guillotine, Tropman, qui était resté calme jusque-là, se débat et que l'exécuteur doit lui maintenir la tête de force sous la fauche. Avant que le couteau ne tombe, le condamné parvient à mordre la main gauche de son bourreau et lui sectionne presque l'index, faisant dire au bourreau « Sale grenouille, ça a été dur !» Dans les années qui vont suivre, l'affaire Tropman va devenir un mythe, consolidé par les tentatives d'imitateurs qui se revendiquent de l'école du tueur et par les abus de langage dans les journaux. Le billet hebdomadaire La Cour d'assises, pour présenter un tueur en 1870, le surnomme en titre à sa une « Moustier, le Tropman belge ». En 1113, presque 50 ans plus tard, un fait divers est titré « Le XXe siècle verra-t-il un nouveau Tropman ?» Le nom même de Tropman sert en fait d'outil de référence et encore aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands criminels du XIXe siècle. Si l'engouement populaire pour les faits divers est bien antérieur à cette affaire, celle-ci marque le début du journalisme criminel tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'affaire du petit Grégory, pour ne citer qu'elle, sera traitée par les médias de la même manière, entre portraits psychologiques des tueurs présumés, opinions de personnalités intellectuelles, Marguerite Duras par exemple s'était exprimée sur la culpabilité supposée de la mère, et rebondissements permanents sur de micro-événements. Cette façon de traiter l'information criminelle met bien en avant la fascination terrible qu'exercent les tueurs et les massacres, fascination qui occulte tout, détruit tout, passe avant toute chose. Gustave Flaubert, à qui la condamnation à mort du criminel avait fait de l'ombre à la publication de son roman L'éducation sentimentale, écrite à George Sand au lendemain de l'exécution, « Dieu merci, on en a fini avec Tropman, quel bonheur !» Mais en a-t-on vraiment fini avec les Tropman, Camille?
Alors justement... Si j'ai encore le temps de faire une petite chronique, on peut évoquer une autre figure qui a fait l'objet d'un mythe. Je vais essayer de faire de mon mieux pour parler de cette histoire mystérieuse. Et si mon père m'écoute, je suis sûre que ça l'intéressera, lui qui est fan de thriller justement. Alors, cette histoire mythique, c'est celle d'une figure, celle d'un mystérieux assassin qui sera condamné à la guillotine. Alimentant craintes et fantasmes, ce personnage de vagabond cynique, tuant de sang-froid, est à la fois un personnage populaire et la cristallisation de débats autour de la guillotine. Cet homme, il s'agit de Jean Hiroux.
Ah oui.
Toi, tu dois connaître. Commençons par le début. En 1831, deux sketchs du dessinateur Henri Monnier sont publiés dans la presse, reprenant un petit procès de l'époque. L'un s'appelle la cour d'assises, l'autre l'exécution. La première image fixe d'abord le mythe. On y voit Jean Hiroux, sans H au début du nom, cette lettre venant s'ajouter plus tard comme une manière de hérisser le personnage, le rendant plus effrayant.
De hérisser.
Voilà. Mais Hiroux, sans H donc, a 38 ans. Il se fait manouvrier, ce que le président traduit en ouvrier journalier. Hiroux ne comprend pas non plus le mot « département ». Il semble dépourvu de connaissances culturelles et administratives et rappelle la surdité de l'accusé Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, sorti la même année.
Petite ref.
Voilà, petite ref. Une description physique est donnée par le greffier. Sans domicile, taille d'1m36, cheveux et sourcils roux, front bas, yeux gris, nez épaté, bouche de travers, menton ramassé, barbe rousse. Tiens donc. Le physique de l'accusé donne déjà dans le monstrueux et le chroniqueur enchaîne sur l'acte d'accusation. Hiroux a assassiné une vieille femme, veuve de surcroît.
C'est vilain.
Oui. Mais l'accusé, lui, se défend. Il se récrie. Moi ? Battre une vieille ? Moi ? Battre un enfant ? Jamais. Moi, respecter un chien ? Mais moi, pas noble, pas riche ? Qu'on me guillotine. Puis il répète. Qu'on me guillotine. Moi, assassineur ? Moi, battre une vieille ? Jamais. Malgré la défense, qui met en avant la pauvreté de Hiroux, né juste après la Révolution et son besoin conséquent de liberté, on imagine son sort dans la deuxième image, l'exécution. Des gamins de Paris attendent pour, entre guillemets, voir guillotiner. Les Misérables de Victor Hugo n'oublieront pas la scène, Gavroche s'écrie, et puis nous irons voir guillotiner. Alors l'histoire de Jean Hiroux rassemble tous les éléments d'un bon thriller. Le personnage est monstrueux, il semble atteint d'un déficit mental, il est roux, et à l'époque, les clichés ont la vie dure, et son crime naît alors dans notre imagination comme l'acte le plus terrifiant qui soit. Mais en réalité, Jean Hiroux n'existe pas. Car oui, la presse au XIXe siècle mêle constamment la fiction à l'information comme Internet aujourd'hui. Si Hiroux a existé, il a en fait été acquitté, rien ne prouve qu'il ressemblait à cela et s'exprimait comme cela. Mais ça, ce n'est pas important pour la société de l'époque qui va s'emparer de l'histoire et en construire un mythe. Alors cette mythification commence avec le dessinateur lui-même, Jean Monnier, qui expérimente à l'oral ses deux idées de sketch auprès de ses collègues du monde de l'art et de la presse, qu'il retrouve dans les cafés et brasseries parisiennes. Et donc le mythe prend de l'ampleur. D'un coup, Jean Hiroux porte une blouse d'ouvrière déchirée, une casquette, une pipe, parle l'argot. Son crime est désormais plus spectaculaire. Il aura été accusé d'avoir, place de la Concorde à 3h du matin, en décembre, volé et assassiné un invalide, un handicapé, de 27 coups de couteau. Donc voilà, il y a tout un engouement qui se crée et l'image, peu à peu, prend une ampleur au point de devenir complètement fantasmée et de nourrir à la fois les écrits journalistiques, mais aussi les œuvres d'art, le monde des artistes.
Le mythe de l'assassin.
Exactement, le mythe de l'assassin.
Ah, c'est fabuleux. Il me semble effectivement que ce sera ce personnage-là qui sera pris par Hugo comme pour le dernier jour d'un condamné.
Oui, exactement. Donc, qui raconte à la première personne les dernières heures, les dernières 24 heures d'un condamné à mort. Et donc, on passe la nuit avec ce condamné. Et c'est Jean Hiroux qui inspire cette figure du condamné.
Je recommande d'ailleurs. C'est très bien, ça, cette œuvre.
Ouais, c'est vraiment très intéressant.
Pour rentrer dans du Hugo, c'est une bonne façon, je trouve, de faire...
Voilà, exactement. Et ce qui nous suggère aussi de se méfier des fake news et de se demander parfois quelle histoire, avec un petit ou un grand H, comme Jean Hiroux, elle tente de dissimuler.
Et merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. On est super contente d'avoir pu faire ça aujourd'hui. Enfin, surtout moi, j'avoue que c'est mon kiff.
Et moi aussi, d'aller sur ton terrain et de découvrir un petit peu plus l'histoire de la presse.
C'était bien chouette. Ouais. Hein. J'ai hâte de faire ton émission spéciale. Voilà.
Le 13 juin.
C'était super. Merci Camille.
Merci
de m'avoir prêté ta voix pour ces chroniques que j'avais réalisées il y a longtemps. Mais c'est chouette de les réentendre et puis surtout par quelqu'un en qui j'ai absolue confiance. Merci évidemment à Radio FM Plus pour leur confiance, comme d'habitude. Merci à Tristan Poitevin pour la réalisation du jingle qui porte les voix de Françoise Héritier et de Lévi-Strauss. Merci évidemment à vous, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine.
Avoir envie d'interroger le monde.
y a une chose, une seule à préconiser, qui est la recherche sur le terrain.
La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses.